En l'an 49 avant Jésus-Christ, au sein de la République romaine, les tensions atteignent un point de non-retour. Le Sénat, sous l'influence de Pompée, ordonne à Jules César de dissoudre son armée et de rentrer à Rome en tant que simple citoyen, dépouillé de son pouvoir pour être exposé à la justice. César hésite sur la rive nord du Rubicon, un cours d'eau peu profond qui marquait la frontière légale entre sa province et l'Italie. Le franchir avec ses troupes était interdit, un acte de rébellion ouverte contre Rome. César marque une pause, puis déclare « Alia iacta est », le sort est jeté. Sur ces mots, il mène sa légion en avant. Le fleuve était peu profond. Les conséquences, elles, seraient immenses. En franchissant le Rubicon, César déclenche une guerre civile qui allait sonner le glas de la République romaine et donner naissance à l'Empire romain. Alors depuis, l'expression « franchir le Rubicon » est devenue une expression pour signifier qu'on prend une décision importante qui est sans retour. Eh bien, ce matin, nous allons étudier le franchissement d'un autre fleuve, pas le Rubicon, mais le Jourdain. Et le Jourdain est la traversée du Jourdain dans le livre de Josué que nous étudions ensemble. Eh bien, cette traversée deviendra quelque chose de très marquant, de très symbolique aussi dans la Bible, avec des implications pour nos vies aussi. Alors, je vous invite à lire cette traversée du fleuve Jourdain en Josué chapitre 3. On va lire tout le chapitre 3 et une partie du chapitre 4. Josué, chapitre 3. Donc nous lisons Josué 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, à peu près 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérisiens, les Girgassiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu de Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. » Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres sont à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Et nous pouvons terminer le chapitre à partir du verset 18. 4:18. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Comme vous savez, en cours d'histoire géo, les fleuves, les rivières ont joué des rôles importants dans le monde et dans la formation des pays. Les fleuves servent souvent de frontières, ou de repères marquants. Quasiment tous nos départements ont le nom d'une fleuve. Et nous voici en Haute-Garonne. Mais les fleuves servent souvent de frontières, surtout à l'époque où les ponts étaient moins faciles à construire que de nos jours. Alors Josué et le peuple se trouvent côté est du Jourdain, donc je vous affiche un plan pour vous repérer. La Bible parle de Sittim, donc ils vont passer de Sittim à Gilgal, qui est en face de Jéricho. Et donc le peuple se trouve côté est du Jourdain, et c'est le moment de traverser le Jourdain, direction ouest, pour entrer dans le pays promis. Et cette fois-ci, Dieu, donc, au lieu de leur faire passer par le sud, comme la première fois avec Moïse, où ils ont été incrédules, cette fois-ci, après des années d'errance dans le désert, ils les font arriver à Sittim. Et donc maintenant, c'est pour entrer dans le pays promis, il faut traverser le Jourdain. Donc Dieu va faire vivre à son peuple cette traversée, un passage net, marquant, déterminant pour passer d'un côté à l'autre. Cette traversée sera le premier grand miracle du livre de Josué. Il y en aura d'autres impressionnants, mais ce serait le premier grand miracle. Et selon la fin de notre texte, verset 23 du chapitre 4, ce miracle sera évidemment calqué sur le miracle le plus spectaculaire de l'Ancien Testament, hormis peut-être la création en 7 jours, mais le miracle le plus spectaculaire de l'Ancien Testament, c'était la sortie d'Égypte, notamment la traversée de la mer Rouge avec les armées de Pharaon qui poursuivaient le peuple, et Dieu a ouvert la mer Rouge pour que son peuple passe. Et donc cette traversée avec de nombreuses ressemblances à la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, je vous rappelle, avec Moïse, c'est le moment où Israël est passé d'un état, d'un peuple esclave. Ils étaient d'un côté de la mer Rouge, ils étaient un peuple esclave pourchassé par les Égyptiens. De l'autre côté, en un jour, ils étaient un peuple libre. Il y avait un avant et un après. Peuple esclave, traversé, peuple libre. Même chose ici. Avant, c'est un peuple perdu, errant dans le désert. Après, c'est un peuple propriétaire avec une identité et une mission claire. Donc cette traversée, un peu comme, tout comme la traversée de la mer Rouge, cette traversée est comme l'acte fondateur, inaugural de cette nouvelle nation, Israël, dans son pays. Et cette traversée des eaux, je tiens à vous rappeler ce matin, cette traversée des eaux, en fait, c'est un schéma qui se répète à de nombreuses reprises dans la Bible pour marquer l'action de Dieu, l'action de ce Dieu vivant qui donne un nouveau départ à son peuple, nouvelle identité. Vous avez pensé à toutes les traversées des eaux dans la Bible, y compris les traversées de Jourdain. Mais tout d'abord, il y avait Noé et l'arche du déluge qui a traversé les eaux du déluge pour connaître un nouveau départ, un avant et un après. Après, il y avait Moïse, la mer rouge, comme je viens de rappeler, qui devient aussi une image importante dans toute la Bible. C'était dans les psaumes 77 qui a été lu. Il y avait Moïse et la traversée de la mer rouge. Mais après, il y avait d'autres. Il y a Élie et Élisée, les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Élie a vécu la traversée du Jourdain, miraculeusement, exactement comme ici, au moment de son départ, au moment de sa mort. Donc, il y avait un avant et après pour lui. Et puis, juste après Élisée, l'autre grand prophète de l'Ancien Testament, juste après Élie, il y avait Élisée. Et lui aussi a vécu cette traversée des eaux, le Jourdain, notamment, pour inaugurer son ministère à lui. Donc, pour le peuple, il y avait un avant et un après. Et puis, bien des années plus tard, Jésus a inauguré son ministère exactement à ce même endroit. Lui aussi a fait une traversée du Jourdain, c'était son baptême, pour inaugurer son ministère et là, pour lancer une nouvelle mission. Et puis, on rappelle que tout baptême, récemment, il y avait des baptêmes, et bientôt, il y aura des baptêmes. Chaque baptême est une traversée des eaux qui s'inspire de ces textes. Donc, tout cela pointe vers une grande réalité que nous pouvons tous vivre avec le Dieu de la Bible. C'est cette traversée, un avant et un après. Une traversée d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Un passage de la mort à la vie, comme nous avons célébré. Et ce matin, j'aimerais m'assurer que tout le monde a vécu cette traversée. Et si ce n'est pas le cas, vous inviter à le faire. Et pour ça, nous allons voir que oui, dans cette traversée, j'ai plusieurs remarques ce matin. Premièrement, Dieu trace la voie pour nous montrer le chemin. Deuxièmement, Dieu opère un grand miracle pour nous montrer qu'il est vivant et présent parmi nous. Et enfin, Dieu appelle au souvenir pour préserver la mémoire d'une chose si importante. Donc, Dieu va tracer le chemin, pour tracer la voie, pour nous montrer le chemin. Et il va opérer un prodige, un miracle, pour nous montrer qu'il est vivant, présent au milieu de nous. Et puis, Dieu appelle au souvenir, pour préserver la mémoire d'une chose si importante dans notre vie, dans la vie de son peuple. Donc, tout d'abord, voyons le chemin tracé. Dans le chapitre 4, 3 et 4, de 3, une chose qui est archi-présente, c'est justement l'arche. Et l'arche de l'Alliance, ça va être ce coffre qu'ils ont construit dans le désert pour aller dans le tabernacle, dans le Saint des Saints. Mais quand ils se déplaçaient, souvent l'arche était devant eux. Et ici, c'est clairement l'arche qui va les conduire, qui va leur montrer la voie. Le verset 10 et 11 dit « Afin que vous sachiez, à ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous. Voici, verset 11, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Donc, c'est cette arche qui représente la présence de Dieu qui va tracer le chemin, leur montrer le chemin. Et on a même quelques précisions intéressantes sur ce déroulé de la marche, de la traversée. En verset 3, il donne cet ordre. « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance portée par les sacrifices, vous partirez du lieu où vous êtes. » Et vous vous mettrez en marche après elle, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Comme j'ai dit, ça c'est 900 mètres, donc à peu près 1 kilomètre. Et la raison est donnée, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc le peuple est nombreux, on parle de peut-être des millions même. Donc Dieu veut qu'il y ait une distance pour que le peuple entier puisse voir le chemin par lequel il faut traverser. C'est comme sur l'autoroute, vous savez, on veut deux grandes bandes blanches entre vous et la voiture avant vous, parce que si vous êtes trop collé à la voiture, vous ne savez pas s'il va freiner ou s'il va tourner, donc il vaut mieux laisser une certaine distance de sécurité. Ici, c'est pareil, une distance de sécurité, oui aussi peut-être parce que Dieu est saint, mais aussi pour que tout le monde puisse voir le chemin à suivre. Et il dit, je vous trace le chemin, car... vous n'avez point encore passé par ce chemin. Évidemment, personne n'est jamais passé par ce chemin. Il n'y a pas de chemin. C'est un torrent d'eau. Mais Dieu va créer le chemin. Et c'est ce chemin qu'il faut suivre. Alors déjà, je me dis peut-être en ce moment, Dieu vous appelle à suivre un chemin par lequel vous n'êtes jamais passé. Mais il peut vous conduire et... gardez vos yeux sur sa présence Et là où il est, là vous serez bien. Et nous rappelons aussi, pensant à ce thème général de toute la Bible, que Jésus, il est quelque part notre arche, celui qui assure la présence de Dieu avec nous. Lui, il a tracé un nouveau chemin, il a inauguré un chemin par lequel jamais personne n'est passé. Et ce chemin n'existait pas, mais par sa mort et sa résurrection, il a ouvert le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la résurrection. Ce chemin n'existait pas, mais en le suivant, ce chemin devient possible. D'ailleurs, Hébreux le dit en autant de mots, chapitre 10, Jésus a inauguré une route nouvelle par sa mort, par sa vie, pour nous faire entrer dans la vie, dans le repos, dans le salut. Alors oui, si encore ce matin, si Dieu vous demande de quitter votre ancienne vie, de passer de son côté, de faire un pas par la foi, il comprend qu'il y a des peurs, des doutes, des inconnus, des sacrifices, tout comme ce peuple, mais sachez qu'il a fait avant vous. Il trace le chemin et Jésus l'a fait de manière visible et publique, de sorte que tout le monde peut voir le chemin à suivre. Ce chemin, c'est la croix, ce chemin, c'est sa mort et sa résurrection. Alors, si vous voulez savoir où aller dans la vie, eh bien, gardez vos yeux sur la croix, gardez vos yeux sur Jésus et vous serez sur le bon chemin. Donc oui, le chemin est tracé pour nous par la présence de Dieu. Ensuite, voyant que Dieu va le faire de manière miraculeuse, prodigieuse, pour nous montrer qu'il est un Dieu puissant, vivant au milieu de nous. Donc nous voyons maintenant vraiment le miracle opéré. Donc il fallait garder les yeux sur l'arche pour suivre le chemin que Dieu trace. Et maintenant, non seulement ils vont suivre un chemin, mais ils vont suivre un chemin miraculeux. Quand César a traversé le Rubicon, c'était une décision majeure, marquante, mais pas forcément miraculeuse. D'ailleurs, peut-être ce matin, vous avez bu un chocolat de la marque Poulain. Donc, à l'époque, Poulain faisait des pubs gestes célèbres. Et donc, un de leurs pubs, c'était exiger le chocolat Poulain orange. C'est le meilleur, je ne sais pas pourquoi. Mais le geste célèbre, c'est César qui franchit le Rubicon. Mais si vous regardez le Rubicon et César avec sa cavalerie, ses soldats, en fait, c'était un petit cours d'eau. Donc, on n'a pas vraiment besoin de miracles. Quelques chevaux, pour un cheval, aucun problème. Et même pour les soldats habitués à la marche rude, pas de problème. Mais ici, c'est une autre affaire. Le texte insiste sur la nature prodigieuse, miraculeuse, surnaturelle de cette traversée, opérée par le Dieu vivant. Il dit en verset 5, pour avancer dans notre texte, « Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Donc c'est important que ce soit fait de manière prodigieuse. Et la suite, en fait, c'est la scène est remplie de suspense, parce que il y a ce fleuve, et maintenant tout le peuple va le traverser. Tout le peuple, pas que la cavalerie, juste quelques chevaux, mais surtout les soldats, mais suivi par tout le peuple. Hormis les deux tribus et demi, les femmes et les enfants qui restent, mais les hommes de combat vont suivre aussi. Et donc, et Dieu va le faire de manière à nous garder en haleine jusqu'au bout. Verset 13, « Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, eh bien les eaux seront coupées. » Je ne sais pas si vous auriez voulu être un de ces sacrificateurs ce jour-là. Vous portez l'arche de l'Alliance, la chose la plus sainte, la plus précieuse qu'a le peuple, et on vous dit « Avancez ». Et puis, on précise, verset 15, c'est ça qui est très intéressant, on précise, verset 15, que le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Donc, on est au temps de la moisson, la première moisson, la moisson du printemps, puisqu'on sait, selon aussi chapitre 4, verset 19, que le peuple sorti du Jourdain le dixième jour du premier mois, c'était exactement le même jour que la Pâque, que la première sortie, et le dixième jour du premier mois, à partir de la sortie d'Égypte de la mer Rouge, c'est ce jour, cette Pâque est devenue le premier mois. Donc on est à l'époque de Pâques, nous savons que c'est au printemps, et voilà, donc on est à printemps où les fleuves ont tendance d'être bien, qui débordent à cause des puits, la fonte des neiges, tout ça. Donc, c'est un torrent débordant. D'ailleurs, vous pouvez chercher sur Internet les images du Jourdain qui déborde. Voilà, ça, c'est Récemment, les pluies, souvent par endroit, Jourdain, c'est pas un énorme fleuve, mais par d'autres moments, et notamment quand c'est en crue, c'est un fleuve qu'on voit bien que la difficulté de traverser. Déjà, quand on propose d'un pique-nique au lac, les mamans ont un peu peur, à cause des enfants. Et là, vous imaginez, on dit, OK, on va traverser ça. Les enfants, les petits, tenez bien la main. Je comprends que certaines mamans ne voudraient pas faire la chose. Mais par la foi, et en fait, c'est ça qui est avec de ce suspense, ils ont mis les pieds dans l'eau et à cet instant, le débit d'eau s'est arrêté et s'est entassé dans un monceau à une grande distance. Donc oui, il y a un miracle, la foi chrétienne est résolument, sans honte, surnaturelle, miraculeuse. Tout au long de la Bible, nous raconte des miracles et ce que Dieu fait dans nos propres vies pour nous faire passer de la mort à la vie est miraculeuse. Alors certes, on essaie d'expliquer ça peut-être par les phénomènes naturels. Dieu a-t-il utilisé un éboulement au niveau de la vie d'Adam pour faire barrage? Pourquoi pas? Mais on voit clairement la nature miraculeuse par le fait que cela s'est produit à l'instant même qu'ils ont mis les pieds dans l'eau et que selon verset 18 du chapitre 4, l'instant que les sacrificateurs furent sortis du Jourdain, les eaux retournèrent à leur place. Donc, Dieu veut montrer la nature prodigieuse de la chose. Et je me dis, c'est intéressant, une fois que les eaux ont repris leur cours, c'est un peu comme César au Rubicon, là, il n'y a vraiment pas de retour possible. Il n'y a pas de retour. Et ils ne peuvent pas décider maintenant, tiens, on veut retourner en Égypte. Et en plus, il n'y a pas de doute. Ils n'ont pas besoin de savoir, suis-je ou suis-je pas en pays promis? Là, c'est clair. Là. Ils ont traversé. Vous êtes désormais dans le pays promis. C'est acté, c'est fait, c'est beau. Et vous savez, ce même miracle s'est reproduit de façon encore plus grandiose. Lorsque Jésus a accompli, lui, la grande traversée, sa grande traversée, quand il est passé de la mort à la vie, d'un côté à l'autre. Le Nouveau Testament parle de sa mort justement comme une traversée, un passage. En Jean chapitre 13, au moment de la chambre haute, Jean dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc Jésus a traversé en quelque sorte la mort, le danger, mais il est passé de l'autre côté sain et sauf par sa résurrection. Jésus, lui, a mis ses pieds dans le torrent mortel de la justice pour les arrêter pour nous. Tous les eaux dans la Bible, là, ces eaux qu'il faut traverser représentent un danger, la mortalité, les eaux du déluge, les eaux de la mer Rouge qui ont fait noyer toute l'armée de Pharaon. Mais Jésus est passé dans ces eaux-là de la justice pour les arrêter pour nous et nous permettre de traverser sain et sauf, tout comme le peuple a traversé à terre sec, à pied sec. Et Jésus, ce qui est beau, c'est qu'il est sorti de l'autre côté victorieux, vainqueur, comme ce peuple. Et il nous invite à le suivre dans cette traversée miraculeuse, cette traversée prodigieuse. Il nous offre cette même résurrection. Comme Nicolas a répété, c'est un peu le verset clé de ce matin. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce qu'il nous offre à chacun. Et par la foi, comme ce peuple a mis ses pieds, ne sachant pas trop comment ça allait marcher, par la foi, ils ont fait confiance en Dieu et la délivrance s'est opérée. Le texte donne plusieurs raisons que Dieu le fait de cette manière prodigieuse. En verset 3-7, il est dit, Dieu dit, je vais faire comme ça, afin qu'ils sachent, il dit ça à Josué, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et c'est répété en 4, verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué, aux yeux de tout Israël, ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Donc la première raison pour ce miracle, c'était pour donner à Josué une autorité, une place élevée pour conduire ce peuple dans la suite des conquêtes et des victoires. Il dit aussi qu'il le fait de cette manière prodigieuse en verset 10. Il a dit, je vais le faire pour que vous sachiez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous tous les Cananéens. C'est-à-dire, à partir de ce miracle-là, ils n'ont pas besoin d'avoir peur, de doute. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est incapable de gérer les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Girgassiens. Tous. Dieu sera avec eux. Et enfin, le dernier verset de notre texte, assez beau. Dieu l'a fait de cette manière afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu le fait pour trois raisons, pour élever Josué, un individu. Il le fait pour son peuple, pour qu'il sache que Dieu est avec eux. Et il le fait pour tous les peuples de la terre, pour qu'ils sachent que Dieu est puissant. Et nous pouvons dire que pour ces mêmes raisons, il a fait traverser Jésus de la mort à la vie. Dieu le Père a élevé son fils Jésus, qui est notre Josué, notre chef, aux yeux de tous. Et par cette traversée-là, aussi, nous avons la preuve que Dieu est vivant, qu'il est au milieu de nous, qu'il va nous délivrer de tout autre problème. La Bible dit, si Dieu nous a donné Jésus, si Jésus est ressuscité, voilà, tout le reste va suivre. Vous n'avez pas besoin de craindre. Et puis, il le fait aussi, il a ressuscité Jésus non seulement pour Jésus lui-même, non seulement pour son peuple, mais pour que tous les peuples sachent que le Dieu de la Bible est puissant, est vivant, est différent des autres dieux. Et donc, nous avons ce miracle opéré pour eux, mais par Jésus, et il nous offre la même de pouvoir passer de l'autre côté, passer à la vie. Et vivre cet avant et cet après. Et enfin, il nous appelle à préserver le souvenir de cette traversée. Une grande partie du récit, même en chapitre 3 et encore plus en chapitre 4, est consacrée à l'importance de ce tas de 12 pierres. Un homme de chaque tribu devait apporter une grosse pierre. Verset 5, il est dit, chapitre 4, verset 5, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. » Donc, on ne parle pas d'un caillou, mais quelqu'un a une assez grosse pierre, nécessitant d'être chargé sur l'épaule. Et avec ça, on va faire un tas de 12 pierres comme souvenir. Donc ça devient un monument. Ils vont dresser ce monument à Gilgal, à l'autre côté, de sorte que, et puis c'est répété à plusieurs fois, quand vos enfants vous demandera à quoi représente ce tas de pierres, vous pouvez leur dire, l'Éternel nous a fait passer à sec. Je pense que le monument même, avec quelques rappels, c'est-à-dire c'est 12, il y en a 12 pierres pour rappeler que Dieu a fait ça pour tout le peuple. Donc il fallait, le peuple était nombreux, il fallait que les eaux soient partagées tout le temps, que tout le peuple sache, mais Dieu n'a perdu aucun des siens, il a fait tous traverser, donc il y en avait les 12, donc les 12 représentent la totalité du peuple, et certainement le fait qu'ils ont pris les pierres du lit du fleuve pour les sortir, souvent les rochers et les cailloux dans les lits de fleuve sont lisses, sont différentes, donc ils pouvaient voir que ces pierres venaient du fleuve, et c'était le rappel que là, à un moment, l'eau ne coulait pas, maintenant ça coule, mais à un moment, l'eau ne coulait pas, et on pouvait sortir ces fleuves. Donc le monument est un rappel vivant de l'acte même. Mais Dieu voulait que le souvenir soit préservé, on a dit que ce miracle, il était comme un acte inaugural, fondateur, donc Dieu va pas refaire le même miracle tous les jours ou tous les matins ou chaque semaine pour le peuple. C'est le genre de miracle que Dieu fait une fois pour toutes, en tout cas pour toute une génération. Et il le fait une fois pour toutes, mais il veut que chaque génération puisse s'en souvenir de ce moment fondateur pour le peuple. Et par la suite de l'histoire d'Israël, ainsi que de notre vie aussi. Là, nous voyons que la santé, l'identité, la réussite du peuple sera en fonction de leur capacité à se souvenir de cette traversée et aussi celle de la mer Rouge. Et ils vont pouvoir toujours se souvenir, ce mémorial de Pierre va les aider. Quand ils se posent la question, est-ce que Dieu nous a vraiment donné le pays promis? Ben oui, parce qu'il nous l'a fait entrer dedans par cette traversée, donc oui, il nous l'a donné. Est-ce que notre Dieu est vraiment différent des autres dieux? Ben oui, il est puissant, il est vivant, contrairement aux autres. Et c'est pareil pour nous, au cœur du culte chrétien, au cœur de la vie chrétienne, au cœur de la pratique chrétienne, il y a ce mandat de préserver le souvenir de l'acte constitutif, l'acte inaugural, décisif de notre salut, qui est la croix, qui est la traversée que Jésus a fait. Et c'est pour ça que nous nous réunissons chaque dimanche. Chaque dimanche sert en quelque sorte comme un tas de pierres. Avec les chants que nous chantons, avec le déroulé de notre culte, nous rappelons le Dieu saint, nous confessons nos péchés, notre besoin de salut, nous nous réjouissons de ce que Jésus-Christ a fait. Donc nous essayons de nous rappeler cette bonne nouvelle chaque dimanche. Et plus concrètement, Dieu nous a donné des objets, un mémorial concret pour nous rappeler, notamment la Sainte Cène et le baptême. On appelle ça des ordonnances chrétiennes, mais nous prenons la Sainte Cène comme souvenir de ce que Christ a fait, et le pain et le vin représentent concrètement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et puis le baptême, inutile de vous dire, de vous rappeler que le baptême est une image de la traversée, de ce thème qui parcourt la Bible, une traversée de la mort à la vie, une traversée des eaux du jugement pour sortir vivant de l'autre côté. C'est ce que Christ a fait. C'est cette œuvre de salut qu'il opère dans le cœur, et puis le baptême est comme un souvenir, un mémorial de cette réalité. Alors c'est pour ça que Dieu veut que nous pratiquions ces choses pour ne jamais oublier l'acte décisif, miraculeux, merveilleux que Jésus a fait pour nous, la façon qu'il a ouvert la voie pour tracer un nouveau chemin vers la vie, la façon qu'il a fait avec toute sa puissance. Pour ressusciter Jésus, ce qui distingue Jésus comme chef de tous les autres chefs des religions. Et il sait que si nous oublions ça, nous allons commencer à ressembler au monde païen, nous allons commencer à nous décourager, à vivre des doutes. Mais si nous rappelons ce qu'il a fait, eh bien, nous serons forts, nous serons comme la génération de Josué, prêts à de nouvelles conquêtes, prêts à vivre par la foi. Si Dieu a su faire ça, il saura prendre soin de chacun de nous par la suite. Alors ce matin, je vous demande, est-ce que vous avez vécu votre traversée en regardant à Jésus-Christ? Pouvez-vous dire qu'il y a un avant et un après dans votre vie avec Dieu? Si vous ne pouvez pas le dire, peut-être ça ne s'est pas encore fait, mais c'est le moment de mettre vos pieds à l'eau comme ce texte, en tout cas avancer par la foi. Avez-vous franchi votre Rubicon? Plutôt le Jourdain, en plaçant votre foi en Christ pour sortir vivant de l'autre côté. C'est ma prière que ce soit le cas pour chacun de nous. Nous prions pour terminer. Seigneur, merci pour ces images saisissantes et vivantes pour nous, la traversée de ces eaux que tu as fait vivre à ton peuple devient voilà, une belle image du salut que tu es prêt à nous accorder. Tu as arrêté les eaux mortelles du jugement. Tu nous permets de traverser, de passer même à travers la mort pour sortir à la vie de résurrection, la vie éternelle, le grand salut en Jésus-Christ. Et nous voulons, ma prière, c'est que pour chacun ici, il puisse connaître ce passage de la mort à la vie, d'une vie peut-être perdue, errante, à une vie remplie de sens, sûr de ton amour, sûr de ta présence. Tu es vraiment le Dieu vivant au milieu de nous et nous voulons encore le confesser. Tu es la vie et nous te remercions. Merci pour ce culte, merci pour les chants, merci pour les lectures, merci pour la communion fraternelle. Que toutes ces choses nous aident à te suivre sur le chemin que tu traces pour nous. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.